Nous démarrons l'émission Une heure en Palestine, qui est programmée tous les mercredis de 18h à 19h sur les ondes de Radio Galère et qui est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13 qui vous propose cette émission. C'est Sidi qui est la technique. Merci Sidi et merci à toute l'équipe de Radio Galère. Pour Palestine 13, je vous rappelle que si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce que passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet qui est mis à jour quotidiennement www.assopalestine13.org. Nous renouvelons les articles de notre site et de notre page Facebook chaque jour en essayant d'alterner actualités et documents de fond, pages culturelles et sportives. Vous y trouverez aussi des pétitions, des appels à participer, même en cette période de pandémie, aux campagnes nationales ou internationales, comme celle en cours contre Puma. Puma, le sponsor de l'OM, honte à lui, car il est aussi le sponsor des équipes de foot des colonies israéliennes illégales. Car bien sûr, Palestine 13 est partie prenante du mouvement BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, mouvement créé par les Palestiniens en référence au mouvement de boycott de l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Dès le 20 mai 2020, nous avions aussi publié un article de l'Agence Média Palestine sur notre site au sujet de ce qui est devenu aujourd'hui l'affaire Pegasus. Je vous lis un extrait de cet article du 20 mai 2020. Israël a été un des tout premiers pays du monde à promouvoir son opération d'espionnage numérique sous l'autorité de son agence de sécurité militaire, le Shin Bet, en tant que mesure anti-Covid-19. Il n'a pas pu agir ainsi rapidement que parce qu'il disposait déjà d'un système de surveillance quasi illimité à cette échelle jusqu'alors inacceptable dans les États démocratiques. La société qui a fait avancer l'idée de l'opération d'espionnage anti-Covid-19 avec le ministre de la Défense et NSO Group, une société israélienne de cybertechnologie qui entretient des relations étroites avec l'agence d'espionnage militaire du pays, UNIT 8200, et qui est bien connue pour son logiciel malveillant de piratage et d'espionnage Pegasus. Pegasus transforme les téléphones en dispositifs d'espionnage et il a déjà été utilisé par certains des gouvernements les plus répressifs à travers le monde pour cibler des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes. Cet article était sur notre site en mai 2020. Il était extrait d'un article de l'Agence Média Palestine. Aujourd'hui, le rôle de NSO et de son logiciel espion Pegasus, cette cyberarme permettant le terrorisme d'État contre la société civile, a indigné le monde entier. Grâce à ce programme ultra sophistiqué, censé aider à combattre le terrorisme et la criminalité, les services de renseignement d'une dizaine de pays, comme le Maroc, le Mexique, l'Inde, les Émirats arabes unis, la Hongrie ou l'Arabie saoudite, ont les moyens de s'introduire dans les smartphones de milliers de journalistes, de défenseurs des droits de l'homme, d'opposants politiques et de dirigeants de pays étrangers. Mais Pegasus n'aurait pas pu devenir une arme de répression massive, le kit d'espionnage favori des autocrates et des populistes, sans la bénédiction de l'État d'Israël. Les autorités de ce pays, qui ont un droit de veto sur les exportations de matériel de cybersurveillance, ont ainsi validé, sans scier, les contrats passés par NSO avec Rabat, Riyad, Abu Dhabi et bien d'autres. Alors nous espérons vraiment que le gouvernement français va intervenir énergiquement pour condamner cette surveillance qui est très néfaste. Alors, mon invité d'aujourd'hui, c'est un ami de Palestine 13. Mon invité, c'est Thomas Vescovi. Il est professeur d'histoire-géographie dans le secondaire. Il est chercheur indépendant en histoire contemporaine. Il est diplômé de l'Université Paris 8 et travaille notamment sur la société juive israélienne, ses relations avec la société palestinienne et son rapport à l'histoire. Il tient un blog très intéressant sur WordPress intitulé « Perspectives décoloniales ». Il a publié de nombreux articles et participé à de nombreuses émissions, en particulier sur France Culture. Thomas Vescovi était venu il y a quelques années au Théâtre Tourski pour une conférence sur la Nakba. Aujourd'hui, il publie un livre important pour comprendre l'histoire. Son livre s'appelle « L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël ». Il est sorti en 2021. Bien sûr, ce livre, je vous répète le titre, « L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël » de Thomas Vescovi, est bien sûr disponible à la librairie Transit, qui a déménagé un peu plus haut de son ancienne adresse dans des locaux plus spacieux et accueillants au 51 boulevard de la Libération. La librairie sera fermée du 13 au 23 août inclus, mais avant et après cette date, les horaires habituels sont du mardi au samedi de 13h à 19h. Pour illustrer cette émission, nous avons choisi deux chansons de celui qui nous a fait danser au pire moment de la pandémie, HK. Nous avons choisi deux titres, d'abord une chanson de 2009 intitulée « Palestine » et ensuite, je vous propose de réécouter une très belle chanson d'HK, « J'ai marché jusqu'à vous ». Pour la première partie de cette émission, Thomas, je vais te demander de te présenter, de nous dire comment tu t'es intéressé à la question du Moyen-Orient, de la Palestine, d'Israël, et puis de nous dire, de nous présenter peut-être tes premiers ouvrages.
Bien, merci d'abord de m'accueillir. Alors, la question palestinienne, j'y ai été amené par différents événements. Je pense que l'opération Plomb durci, qui avait eu lieu à l'hiver 2008-2009, qui avait été menée par Israël sur la bande de Gaza, avait été pour moi un vrai traumatisme. J'étais à l'époque lycéen et j'avais été vraiment marqué par d'abord la violence de l'attaque israélienne sur la bande de Gaza, ensuite par le traitement médiatique qui avait été fait de ça, où vous voyez bien qu'il y avait une situation d'injustice et de disproportion totale dans les forces en présence. Et pourtant, il y avait une volonté de beaucoup de médias, soit de montrer un espèce d'équilibre qui était totalement nauséabond, ou alors clairement de donner la parole, par exemple, à l'ambassadeur d'Israël en France ou à d'autres gens de la sorte, sans jamais remettre en question leurs propos. Ça a été un événement déclencheur, surtout parce que par la suite, j'ai été marqué de me rendre compte qu'il n'y avait aucune sanction. Ça peut être naïf, mais je rappelle que j'étais lycéen à l'époque, et le fait de voir qu'il n'y avait aucune sanction, qu'un État pouvait librement bombarder les populations civiles, tuer des enfants, une population qui en plus vivait à l'époque déjà sous blocus totalement illégal, et bien ça m'a vraiment marqué. Et ça a un petit peu déterminé mon parcours de futur étudiant, où j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai eu l'opportunité de réaliser mon master d'histoire à l'université Paris 8, où j'ai fait une spécialisation sur le monde arabophone, et j'ai fait donc mon premier travail de recherche sur Israël-Palestine, en m'intéressant notamment à la question des enjeux mémoriels, c'est-à-dire comment est-ce qu'en Israël, la mémoire des réfugiés palestiniens, donc la mémoire de la Nakba, est entretenue, existe, et comment est-ce qu'elle entre en conflit avec la mémoire officielle israélienne qui prétend que en 1948, il n'y aurait pas eu d'expulsion de Palestiniens, que les Palestiniens seraient partis d'eux-mêmes parce qu'ils ne voulaient pas vivre avec la population juive israélienne. Ce qui est véritablement un mensonge, puisqu'aujourd'hui, on sait du point de vue des historiens qu'il y a bien eu des expulsions en 1948 au Proche-Orient et dans ce territoire qui est aujourd'hui appelé Israël. Et donc ça a vraiment été un élément déclencheur parce que j'ai pu aller sur le terrain à plusieurs reprises, j'ai rencontré beaucoup d'ONG et j'ai fait donc ce travail-là qui a pu ensuite être publié aux éditions L'Harmattan, donc sous le titre La mémoire de la Nakba en Israël. C'est une synthèse en fait qui a été publiée dans cette édition-là. Et par la suite, eh bien, j'ai souhaité continuer mes recherches. Donc j'ai écrit pas mal d'articles d'actualité, d'analyse, etc. Je suis retourné souvent aussi sur le terrain en tant qu'accompagnateur, notamment pour l'association France-Palestine Solidarité. J'ai accompagné pas mal de missions de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs sur le terrain. Et puis par la suite, donc, j'ai voulu me spécialiser encore davantage sur la question israélienne surtout, en m'intéressant à l'angle politique, donc c'est-à-dire avec les gauches israéliennes. En gros, si vous voulez, j'étais intéressé par ce débat, alors qui existe depuis très longtemps, mais peut-on être sioniste et de gauche? Et en fait, j'étais pas satisfait des réponses qui étaient données. C'est-à-dire que en règle générale, quand vous posez cette question de peut-on être sioniste et de gauche, on vous répond soit que non, c'est impossible, les deux sont complètement antinomiques, soit une réponse qui est plutôt issue des gens sionistes et de gauche, qui est que oui, le sionisme de gauche, c'est possible, ça a existé, ça a été glorieux, mais aujourd'hui, c'est en perte de vitesse à cause des Palestiniens et à cause de la droite israélienne. En gros, c'est pas à cause d'eux, si vous voulez. Et en fait, j'ai voulu m'intéresser à ça en me demandant, en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement être de gauche en Israël? Comment est-ce que quelqu'un en Israël aujourd'hui qui est sioniste et de gauche, il vit son militantisme politique? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle action il va? Sur quoi il milite? Voilà, c'était vraiment l'angle de départ. Et puis, je me suis retrouvé, par la force des choses, à en faire davantage, plutôt un livre d'histoire, à remonter le temps, à m'intéresser au premier débat, à l'arrivée des premiers militants sionistes de gauche, à leur conflit entre eux, au débat entre eux. Et donc, de fil en aiguille, ça m'a mené à faire un travail qui a duré presque 4 voire 5 ans. Et donc, la sortie de ce livre aux éditions de La Découverte cette année. Alors, livre qui a été repoussé d'un an parce qu'il devait sortir en 2020, mais le Covid oblige, et bien on l'a repoussé d'un an. Et donc, le livre est sorti en mars de cette année sous le titre L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël. Et l'objectif du livre, c'est vraiment de proposer un récit. J'insiste sur ça. C'est pas du tout l'objectif de donner une opinion. Je ne tranche pas vraiment le débat. Peut-on être sioniste de gauche? Je propose un récit historique et à la fin, j'en pose une analyse qui est que on peut être sioniste de gauche, on a pu l'être, certains aujourd'hui s'en revendiquent encore, mais voilà les contradictions que ça pose. Voilà. Et en gros, à partir de là, après, chacun fait son opinion et chacun peut voir les perspectives qui sont posées par le livre. Mais c'est vraiment mon idée, c'était de proposer un récit parce que l'enjeu du livre, c'est vraiment de poser un débat. Je ne veux pas arriver un peu de manière péremptoire en disant « vous vous trompez tous, on ne peut pas, point barre, voilà, je vais vous le dire en 300 pages ». Ce n'est pas du tout le but, c'est vraiment j'explique les différents événements, les moments clés. Et la satisfaction que j'ai pour l'instant, c'est que les gens qui ont lu le livre me disent qu'en fait, ce n'est pas qu'un livre sur la gauche en Israël, c'est vraiment un livre sur Israël, voire même sur Israël-Palestine, surtout sur Israël quand même. Mais du coup, on reprend vraiment toute l'histoire d'Israël parce que Israël, c'est quand même un pays qui a été fondé en 1948 par le sionisme issu originellement de la gauche, donc par un sionisme qui se disait, disons, plutôt socialisant. Alors attention, pas socialiste, mais plutôt socialisant. Et pourtant, aujourd'hui, Israël, c'est un pays qui est clairement à droite, très très à droite. Donc là, il y a une contradiction majeure et ça m'a intéressé d'essayer de comprendre justement pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, comment est-ce qu'on en est arrivé là et d'essayer vraiment d'amener le débat partout où est-ce qu'on proposera de pouvoir le faire.
Merci Thomas. Une petite musique et ensuite nous allons tranquillement décortiquer ce livre, les étapes et la situation d'aujourd'hui. Merci Thomas.
Plutôt, on pourrait dire aussi entre un peuple et une ville, entre un homme et sa Jérusalem céleste. Protzi, ma Jérusalem. Jérusalem, comment-il pouvoir tuer notre histoire?
Briser notre rêve. Ils ont cru pouvoir me faire oublier le doux parfum de tes lèvres. Ils m'ont éloigné de toi. Ils ont voulu que je t'abandonne, que j'abandonne le souvenir de ces heures où je caressais ton sol. Ils ont dressé ce mur entre nous pour ne plus que je m'obstine à vouloir poser mon regard sur le flanc de tes collines. Si tu as la beauté divine, tu illumines toutes mes nuits.
Thomas, avant cette pause musicale et cette très belle chanson, tu nous parlais de l'histoire de la gauche en Israël. Ce n'est pas par le biais par lequel on parle de la question Palestine-Israël. C'est une approche que nous n'avons pas l'habitude d'avoir. Est-ce que tu peux nous tracer les grandes lignes de cette évolution, s'il te plaît ?
Bien sûr. Alors d'abord, la raison pour laquelle je m'y suis intéressé, c'est aussi parce que je crois sincèrement que l'absence de force alternative en Israël, l'absence d'un mouvement en Israël qui pourrait, disons, pour la paix, ou en tout cas davantage centré sur une pacification avec les Palestiniens et puis des constructions de ponts et d'échanges, de discussions, etc., favorise naturellement la droitisation du pays. Donc en fait, l'absence d'alternative pour moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles Israël se droitise autant. Du coup, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que cette alternative-là n'existe pas, pourquoi est-ce que l'historique mouvement de la paix israélien, avec toutes les contradictions que je montre dans le livre, n'existe plus. Mais avant ça, évidemment, il faut revenir un petit peu aux origines, sans raconter évidemment tout le livre. Je pense qu'il y a des points importants. Le premier point que j'aime souvent raconter, c'est le point qui se situe au lendemain à peu près de la révolution russe. Donc on est 1918-1919. Et en fait, à ce moment-là, dans le monde entier, vous avez l'appel à créer les premiers partis communistes. La première internationale communiste qui est lancée. Et en Palestine, à l'époque, ça va créer dans la société juive un profond débat. C'est-à-dire que qui sont les militants sionistes qui arrivent en Palestine à l'époque ? Vous avez pour l'essentiel des gens qui croient sincèrement que sur cette terre-là, ils vont pouvoir réaliser leur rêve, leur utopie, de créer un état de justice, un état de paix, un état de révolution. Ils veulent s'émanciper de l'antisémitisme vécu en Europe et ils veulent du coup en Palestine réaliser une espèce d'égalité, une espèce de libération des peuples. Sauf qu'on est aussi dans une période où la colonisation est dans les esprits. La mentalité coloniale au début du XXe siècle n'est pas forcément quelque chose, en Europe en tout cas, qui est condamné et condamnable. C'est quelque chose qui est assez répandu. Donc l'idée d'aller sur une terre qui n'est pas forcément à vous pour vous y installer et construire un État, eh bien, ça peut être vu comme un projet progressiste dès lors qu'on estime que la création de l'État amènera un projet moderne. Bon, sauf que contradiction majeure, une partie des militants constate bien en arrivant sur cette terre de Palestine que la terre est habitée, qu'il y a une population qui est là et qui n'a pas du tout pour objectif de vous la laisser ou de se pousser pour faire de la place. Si bien qu'au lendemain de la première de la révolution russe, vous avez donc dans ces débats au sein des groupes sionistes de gauche une espèce d'implosion, si vous voulez, autour de cette question centrale: est-on davantage marxiste ou nationaliste? C'est-à-dire que pour certains qui vont rejoindre les appels de l'URSS en formation, eh bien, on est davantage marxiste. Et donc, si on est marxiste avant tout, les alliances politiques qu'on doit créer en Palestine à l'époque, elles ne sont pas sur des bases communautaires, mais sur des bases politiques, donc extra-communautaires. Donc l'enjeu, c'est de créer d'abord des alliances entre les Arabes et les Juifs. Pour les autres, qui sont davantage nationalistes, ou en tout cas qui considèrent que l'enjeu central, c'est pas d'être de gauche, mais c'est d'être sioniste, eh bien pour eux, l'objectif premier, c'est de créer un État pour les Juifs. Et les Arabes qui voudront se greffer à cet État-là, parce que l'État sera prétendument moderne, bienfaiteur et progressiste, eh bien ils sont les bienvenus s'ils le veulent. Mais ceux qui ne le veulent pas seront nos adversaires et on les combattra coûte que coûte. Cette division-là va créer en fait la première formation de deux grandes tendances au sein de la société juive en Palestine, entre une gauche sioniste, c'est-à-dire des gens qui considèrent que la justice sociale c'est important, que l'égalité c'est important, mais que malgré tout l'objectif premier c'est la construction de l'État, c'est le fait que la nation juive en Palestine doit être formée, doit être structurée, doit être renforcée et doit aller vers la création d'un État pour les Juifs. Et l'autre tendance, qui est davantage marxiste, elle estime au contraire que non, l'objectif premier, c'est de dépasser ce clivage nationaliste pour créer des ponts avec une partie de la société progressiste arabe afin de rassembler les travailleurs sur des bases extra-communautaires entre Arabes et Juifs. Naturellement, la deuxième tendance, hein, marxiste, va être minoritaire, mais va avoir une influence non négligeable. Le deuxième point, à mon avis, qui est important, c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 1948, là, vous avez la deuxième fracture au sein des gauches israéliennes, où en fait, on a trois tendances qui vont se constituer. On a une première tendance très majoritaire qui est autour du camp qu'on appelle sioniste travailliste. C'est cette tendance que Ziv Sternel, l'historien israélien, assimilait comme étant surtout des nationalistes, mais qui ont enrobé leur nationalisme de socialisme, ou d'idées, disons, socialisantes. Donc là, chez ces gens-là, il y a l'idée que l'État juif est bénéfique pour tout le monde, que cette terre est à nous, qu'elle nous appartient, qu'on l'a gagnée, que ce qui a été fait, c'est-à-dire en gros les expulsions de Palestiniens, eh bien, c'est un mal pour un bien, parce que du coup maintenant, on a enfin un État pour nous. Et surtout, c'est un parti qui se considère comme exclusivement juif. Les Arabes n'y sont pas acceptés. Et il va falloir beaucoup de temps pour que le Parti travailliste accepte que des Arabes palestiniens puissent peut-être y adhérer, ou en tout cas y être même militants. Donc là, c'est vraiment un parti qui est centré sur l'idée que la justice sociale, c'est d'abord pour les populations juives. Les autres, on verra plus tard. La deuxième tendance, qui est historiquement liés à ce que j'ai appelé tout à l'heure les marxisans, hein, ceux qui étaient plutôt dans cette tendance-là, eux vont se rassembler notamment autour du Parti communiste israélien. Dans cette tendance-là, minoritaire, il y a l'idée qu'en 1948, Israël a eu le droit de se défendre. C'est défendu parce que les États arabes ont attaqué, etc. On a le droit de se défendre, mais que le résultat de tout ça, c'est une injustice patente, parce qu'il y a quand même eu 800 000 personnes qui ont été expulsées, et que l'objectif maintenant, c'est que cet État d'Israël, s'il veut pouvoir se pérenniser dans le temps et se pacifier en interne et en externe aussi, évidemment, il faut qu'il puisse s'intégrer à la région et donc qu'il accepte d'appliquer tout ou partie du droit international et donc de permettre aux réfugiés palestiniens de revenir sur leur terre, en tout cas d'être dédommagés ou de trouver en tout cas les bases d'une entente et d'un accord. Et ça va être vraiment le cœur de cible de ce parti communiste-là, de permettre vraiment la possibilité d'une intégration d'Israël à la région. Bon. La troisième tendance, elle est vraiment sur une ligne de crête. C'est un parti qui est plein de contradictions, qui a en fait été créé parce qu'il y avait différentes tendances du sionisme qui ne se retrouvaient pas chez les travaillistes et qui se sont rassemblées. C'est un parti, pour vous dire à quel point il y avait des contradictions, il se revendiquait de l'URSS tout en étant profondément sioniste. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'en 1948, l'URSS a soutenu la création d'Israël, a armé même les troupes juives durant la première guerre israélo-arabe. Et donc c'est un parti qui estime, lui, qu'on peut créer un socialisme socialiste. Ils y croient profondément, il s'appelait le MAPAM. Ça peut être vu comme une espèce d'ancêtre aujourd'hui du parti Meretz, qui est d'ailleurs actuellement au sein du gouvernement israélien. Et dans ce parti-là, l'idée en 48, c'est que, ok, Israël avait le droit de se défendre. L'État qui a été créé, c'est bien qu'il ait été créé parce qu'il fallait un État pour les Juifs. Mais que maintenant qu'il est créé, on doit réussir à construire les bases d'une société la plus égalitaire possible. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'il faut se rappeler qu'en 1948, s'il y a 800 000 Palestiniens qui ont été expulsés, vous avez quand même 150 000 Arabes palestiniens qui ont pu rester sur leur terre ou qui ont pu éviter d'être expulsés au-delà des frontières et des limites du pays et qui donc du coup se retrouvent citoyens israéliens sans le vouloir. Là, on a donc trois grandes tendances au sein de cette gauche israélienne et qui jusqu'à aujourd'hui continuent d'exister quelque part. Entre un parti travailliste assez hégémonique, un parti MAPAM-Meretz qui est, si vous voulez, un parti sur une ligne de crête entre les deux, qui essaie d'exister tant bien que mal. C'est de ce parti-là notamment que va émerger l'historique camp de la paix. En tout cas, les grandes figures du camp de la paix vont souvent être adhérents et cadres de ce parti MAPAM puis Meretz. Et enfin, on a un parti communiste qui est très minoritaire, mais qui est actif. Ce que j'ai essayé de faire dans ce livre-là, ça a été en fait de dépasser ce que font beaucoup d'historiens ou de politistes, c'est de se centrer sur une seule tendance. Vous trouverez des livres, bons ou moins bons, mais peu importe, vous trouverez des livres sur l'histoire des travaillistes, sur l'histoire du camp de la paix, sur l'histoire du Parti communiste israélien. Vous en trouverez. Moi, j'ai essayé de montrer en fait comment ces trois tendances-là ont cohabité, ont coexisté, ont été en conflit, ont été en débat et se sont influencées les unes les autres. Prenons un exemple concret. Nous sommes en 67. 67, vous le savez, Israël, lors de la guerre des six jours, parvient à prendre les 22% restants de la Palestine historique, Gaza et la Cisjordanie. C'est-à-dire qu'en gros, toute la Palestine historique, en 67, est entre les mains d'Israël. C'est terminé. Dès le lendemain de la guerre, vous avez, au sein du Parti communiste israélien, au sein de la gauche israélienne antisioniste, la formation des premiers mouvements anti-occupation. En gros, des mouvements qui vont dire, ok, en 48, Israël a pris un territoire au-delà de ce que l'ONU lui disait, mais Israël a pu légitimer cette conquête-là par le droit international parce que l'ONU, quelque part, légitimait via différentes résolutions le fait qu'il y ait une ligne verte qui séparait l'État d'Israël des territoires pris à l'époque par la Jordanie et l'Égypte. Mais en tout cas, voilà, il y avait une espèce de forme de légitimation. 67, c'est impossible. Cisjordanie et Gaza sont occupés illégalement, c'est illégal, on ne peut pas le faire. Donc il y a des premiers mouvements qui vont se créer. Sauf qu'en 67, c'est bien la gauche israélienne qui est au pouvoir. Ce sont les travaillistes qui sont au pouvoir. Les travaillistes israéliens à l'époque vont réprimer de manière assez violente, ou en tout cas de manière assez forte, ces premiers mouvements anti-occupation, qui vont être vus comme des mouvements de traîtres, des mouvements qui sont vus comme des gens qui pactisent avec l'adversaire et avec l'ennemi arabes, si bien que certains militants vont être incarcérés pour leur militantisme. Sauf que ces groupes-là, ultra minoritaires, mais très actifs et très forts du point de vue de la communication, ils vont progressivement influencer des sphères de la société israélienne. Je pense notamment aux étudiants, aux lycéens, à des mouvements un petit peu plus alternatifs. Et cette influence-là va faire que lorsqu'en 77, la gauche israélienne, pour la première fois, perd le pouvoir. La droite arrive au pouvoir en Israël en 77, pour la première fois, l'histoire du pays. Eh bien, la gauche israélienne va commencer, peu à peu, à se reformer, à se remobiliser autour de cette nouvelle idée qui est que, ok, on a perdu notre hégémonie dans le pays, il faut qu'on se réinvente. Eh bien, il y a en Israël une base de militants qui est davantage portée maintenant vers des idées, disons, de paix, ou en tout cas de pacification avec les pays arabes voisinants et même la population arabe qui vit à côté de nous, voire même chez nous, eh bien, on peut essayer de se remobiliser autour de ça. Et en fait, on va voir progressivement des formations militantes où on a des anciens militants qui avant étaient vus comme des gens, des traîtres, des gens qui étaient dans l'illégalité totale au niveau de leur militantisme, qui vont être acceptés, qui vont être légitimés. Et on va avoir des cercles militants qui vont se créer, notamment autour des grands camps de la paix, de manifestations, etc. Et vous voyez là, en fait, comment est-ce que une tendance pourtant minoritaire en Israël, issue du communisme, du marxisme, etc., a influencé progressivement une tendance beaucoup plus majoritaire. Alors évidemment, le discours va complètement être modifié, puisque il va être nuancé, il va être condensé, puisque le discours porté par les travaillistes ne va pas être du tout celui issu du Parti communiste, hein, avec l'État palestinien, etc. Ça va plutôt être un discours disant il faut donner une autonomie, etc. Il faut aller vers une reconnaissance des droits ou une partie des droits des Palestiniens, etc. Mais en tout cas, ça a amené cette influence-là. Et j'ai vraiment voulu essayer de montrer la coexistence entre ces trois tendances-là et leur manière de discuter, de s'influencer, jusqu'à ce qu'il y ait en fait un effondrement de ce camp de la paix qui peut, à mon avis, être daté des années 2000. Surtout un événement qui, moi, me paraît majeur, et j'en fais pas trop sur ça parce que je pense que c'est vraiment l'événement qui, pour moi, est important. Vous le savez, Yitzhak Rabin, premier ministre israélien, va être assassiné en Israël en 95. 96, Netanyahou est élu premier ministre. Trois ans plus tard, 99, Ehud Barak, issu du camp travailliste, parvient à être premier ministre. Et Ehud Barak va être élu sur l'idée qu'il faut revenir aux négociations avec les Palestiniens, il faut qu'on revienne dans un processus de discussion. Et Ehud Barak est élu sur ça. Le problème va être que Barak, en fait, quand il était chef d'état-major de l'armée israélienne, au moment en fait des négociations d'Oslo entre Rabin et Arafat, eh bien, Ehud Barak était opposé lui-même à Oslo, ou du moins aux négociations avec Arafat. Résultat, lorsque vous arrivez en 2000, cercle de négociation à Camp David entre Clinton, Ehud Barak et Arafat, Arafat sait très bien que c'est un piège. Il ne veut pas y aller, il dit qu'il faut poser des lignes rouges parce que négocier sans arrêt de la colonisation, libération de prisonniers, etc., ça n'a aucun sens. Mais sous l'influence et notamment sous le poids de la diplomatie américaine, Arafat y va quand même. Au lendemain de Camp David, Ehud Barak va dire une phrase qui est fondamentale, selon moi, pour comprendre l'explosion de cette gauche israélienne. Ehud Barak va dire au lendemain de Camp David, « Nous n'avons pas de partenaire pour faire la paix. » Il faut comprendre que cette phrase-là, tenue par un premier ministre travailliste, est importante parce que les travaillistes, historiquement, notamment à l'époque d'Isaac Rabin, sans être des gens qui étaient profondément dans la paix avec les Palestiniens, ce sont des gens qui, en allant serrer la main à Arafat, en acceptant la création de groupes politiques, de discussions avec les Palestiniens, ont permis de légitimer toutes les initiatives qui avaient été faites en Israël depuis maintenant 20 ans autour d'une pacification avec les Palestiniens. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont permis d'accepter en Israël que oui, on peut parler avec les Palestiniens. Lorsque le premier ministre israélien Yitzhak Rabin serre la main à Yasser Arafat, l'ancien adversaire, l'ancien ennemi, ça permet en fait de légitimer plein d'initiatives qui ont été faites. Et donc du coup, quand ce même premier ministre, issu de ce même parti-là, qui est historiquement vu en Israël comme le parti qui va vers le dialogue, si vous voulez, dit qu'il n'y a plus de partenaire pour la paix, eh bien vous donnez un boulevard à qui ? Eh bien évidemment à la droite, et notamment à l'époque au général Ariel Sharon, qui va s'empresser de dire, eh bien voilà, on l'a dit depuis longtemps, ça ne sert à rien de négocier, ça ne sert à rien de parler avec eux, la seule solution face aux Palestiniens, c'est la force. Et du coup, on va passer d'un paradigme travailliste qui était celui de dire il faut qu'il y ait une séparation à l'amiable des deux sociétés pour qu'on puisse vivre côte à côte, à une séparation par la force, qui est ce que va dire notamment Sharon, puis aujourd'hui encore Netanyahou, où on estime qu'en fait, il faut se séparer uniquement par les armes, par la force, et uniquement sur la base des conditions israéliennes. On ne tient pas compte, même un petit peu, de l'avis des Palestiniens, on s'en fiche, on leur donne ce qu'on voudra bien leur donner, et s'ils ne le prennent pas, eh bien on leur prendra tout. Et là, on arrive à une situation aujourd'hui où vous voyez bien que la gauche israélienne, notamment sioniste, n'arrive pas à se réinventer, elle est complètement bloquée parce qu'elle n'a pas de nouvelle approche, de nouveau paradigme, que la séparation qu'elle vend, eh bien, les Israéliens n'y croient plus parce qu'en fait, la droite l'a fait avec la force et bah, même a réussi quelque part une forme de non pas de séparation, mais en tout cas d'invisibilisation pardon, du Palestinien dans la société israélienne. Et donc, on se retrouve face à une marginalisation des idées de gauche en Israël au profit d'une droitisation des mentalités.
Merci Thomas. Alors là, je suis sûre que tu ne termines pas ton livre de façon aussi pessimiste. Donc nous allons faire une une petite pause musicale et ensuite Thomas nous parlera des perspectives, comment il voit l'avenir. Merci Thomas, place à la musique.
Les coups de sang, les coups du sort, les coups de poing, les coups encore. J'en ai reçu plus qu'à mon tour, j'en ai reçu jusqu'à ce jour. J'ai quitté mon petit village en portant pour seul bagage des restes de rêves d'enfant, des gentils qui gagnent à la fin. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, mille fois j'ai fait ce rêve, je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, je suis là, voyez-vous. Mille fois j'ai fait le vœu, je vous en fais l'aveu, de me voir un jour dans vos yeux. Les petits chemins retirés, les routes fleuves et les forêts, les vastes plaines et les plateaux, les grandes villes comme en photo. Je marchais tant que j'ai pu, tant de fois je me suis perdu. Les trains, les camions, les bateaux, les coups de blues, les coups de couteau. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, mille fois j'ai fait ce rêve, je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, je suis là, voyez-vous. Mille fois j'ai fait le vœu, je vous en fais l'aveu, de me voir un jour dans vos yeux.
It was when they died. I left my place because I don't have anywhere to go. So I left from Maiduguri, I went to Niger. From Niger, I have to go to Morocco. From Morocco, I crossed to Spain. From Spain, I came to, I don't know the name of the place, day before yesterday.
Combien de pays traversées, combien de frontières dépassées, et me voilà, m'en voulez-vous, je n'avais pas pris rendez-vous. De mon histoire, vous savez tout, arrivé seul et sans le sou, mais surtout arrivé en vie. Comprenez pourquoi je souris. J'ai marché jusqu'à vous, j'y ai cru, je l'avoue. À chaque pause, chaque trêve, mille fois j'ai fait ce rêve, je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, je suis là, voyez-vous. Mille fois j'ai fait le vœu, je vous en fais l'aveu, de me voir un jour dans vos yeux. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai eu peur, je l'avoue. Mille fois j'ai fait ce rêve, mille fois j'ai fait ce rêve, je lisais mon nom sur vos lèvres. J'ai marché jusqu'à vous, j'ai marché jusqu'à vous, j'ai marché jusqu'à vous.
Thomas, après l'analyse historique que tu as tracée, je propose que cette troisième partie d'émission soit consacrée aux perspectives qui nous aident à penser, qui nous aident à voir l'avenir de façon moins pessimiste. Thomas, tes perspectives.
Bon alors, évidemment, je ne suis pas devin et le livre ne cherche pas à deviner l'avenir. Le livre, par contre, il présente en fait quelques pistes aujourd'hui qui existent au sein de la société israélienne. D'abord, juste un constat, souvent on me dit, mais pourquoi avoir appelé le livre L'échec d'une utopie? Alors, c'est volontairement provocateur parce que je veux provoquer le débat, hein, c'est mon but. Et surtout parce que je veux partir d'un constat. Aujourd'hui, en Israël, 72 députés sur 120 sont clairement de droite. Et attention, je dis bien de droite. Je ne parle pas de centre, je dis bien de droite. En 48, quand le pays a été créé, lors de la première élection qui a eu lieu donc en 49, vous aviez 71 députés sur 120 qui étaient de gauche. Sionistes, certes, mais en tout cas, qui se revendiquaient d'une certaine forme de gauche. Aujourd'hui, 72 sur 120 sont de droite. Ce que j'essaie d'expliquer là, c'est qu'en fait, on a en Israël aujourd'hui, d'abord, des valeurs de gauche qui paraissent complètement désuètes. Il y a eu dans les années 80 une vague de libéralisme qui a complètement porté la question du socialisme, même voire parfois de la justice sociale, hein, clairement. Donc là, on a évidemment des similitudes avec d'autres pays. En France, c'est pareil, on a connu ça aussi. Auprès de la jeunesse, le libéralisme a tellement fait florès que du coup, ben, vous avez évidemment un sentiment que ça peut paraître complètement désuet, arriéré d'un autre temps. Mais je pense qu'en Israël, vous avez aussi un aspect structurel. Sociologiquement, la société israélienne aujourd'hui est de plus en plus clivée. En gros, si vous voulez, Israël a beau prétendre que c'est le pays du peuple juif, cette question n'existe pas, selon moi. Israël le montre bien, puisque vous n'êtes pas juif en Israël, vous êtes juif de quelque chose. Juif éthiopien, juif séfarade, juif mezraïm, juif ashkenaz, etc. Et votre appartenance à ces communautés-là détermine en partie, attention, pas totalement, mais détermine en partie votre lien politique. On ne comprend pas la sociologie politique en Israël si on ne comprend pas aussi les liens qui existent entre la politique et l'identité de la personne. C'est-à-dire que, par exemple, dans les communautés juives orientales, donc issues du Moyen-Orient, du monde arabe, etc., on a une tendance à être beaucoup plus religieux. C'est-à-dire, en gros, à considérer que les valeurs religieuses doivent primer avant tout le reste. Là où, au sein des communautés juives européennes, et attention, je ne fais pas de généralité, je dis juste des grandes tendances, au sein des juifs européens, juifs ashkénazes, on a en revanche des valeurs européennes, en tout cas des idées politiques issues de l'Europe, que ce soit la séparation de l'Église et de l'État, que ce soit même le socialisme, la justice sociale, etc., ou le libéralisme économique ou identitaire, qui est beaucoup plus prégnant. C'est pas étonnant du coup que même au sein de la gauche israélienne, on a surtout des gens issus de ces communautés juives européennes-là. Sauf qu'en Israël aujourd'hui, les juifs ashkénazes, juifs européens, constituent à peu près 30% de la société. Ça veut dire qu'en fait, vous devez bien comprendre ça. Évidemment que la question de liberté des ONG, la question de séparation de l'Église et de l'État, la question de la justice sociale, la question des droits des LGBT par exemple, ça peut paraître des idées totalement progressistes et importantes à défendre, certes. Mais quand vous allez voir des communautés ou quand vous êtes dans des villes qui sont davantage juifs, issus par exemple de l'ex-URSS ou du monde arabe ou du Moyen-Orient, vous allez trouver des gens qui vont considérer que la priorité pour eux, c'est pas ça. La priorité pour eux, c'est que le pays reste religieux, en tout cas que le pays reste entre les mains des juifs, que le pays reste juif. Et ça, vous devez le comprendre politiquement. Ça veut dire que la droite a imbibé totalement cette société israélienne depuis des années d'une idée qui est que la gauche, c'est, entre guillemets, la laïcité, la fin d'identité juive au niveau religieux, et surtout, c'est la paix avec les Palestiniens. Donc, en gros, c'est on vend le pays, entre guillemets, ou une partie des terres aux Palestiniens. Et chez plein de gens, ces idées-là, ça fait peur dans le sens où ils se disent que, mais bon sang, si la gauche arrive au pouvoir, elle va complètement remettre en cause ce que nous, on veut, c'est-à-dire un pays où, en tant que juif, j'ai des privilèges. Et où, en tant que juif, je peux vivre librement ma religion. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, en Israël, la gauche, quand elle fait une campagne politique, elle part avec énormément de voix de retard. C'est-à-dire que dans ces villes-là, juifs orientales, vous avez évidemment de la pauvreté, plus qu'ailleurs. Vous avez évidemment une religiosité plus prégnante qu'ailleurs, certes. Mais parce que, en fait, ce qui compte avant tout, c'est cette question-là. Cette question d'identité et de hiérarchie des valeurs. Et ça, il faut vraiment qu'on arrive à le comprendre. Le deuxième aspect, c'est la question de la colonisation. En Israël aujourd'hui, vous avez à peu près 700 000 personnes qui vivent dans les territoires de Cisjordanie ou de Jérusalem-Est. Donc ce sont des colons au niveau du droit international, au niveau de l'ONU. Il n'y a pas de distinction sur ça, c'est très clair, ce sont des colons. On me dit depuis très longtemps, oui mais attention, parmi ces colons, il faut distinguer parce que certains sont des colons économiques, ils sont là que pour des enjeux socio-économiques, c'est-à-dire en gros pour payer moins d'impôts, pour avoir accès à des terres moins chères, etc. Certes, mais si vous prenez le temps d'étudier une carte électorale d'Israël, vous allez être surpris, ou pas d'ailleurs, peu importe, mais de vous rendre compte que dans ces territoires-là, chez ces 700 000 colons-là, même les colons économiques, qui sort vainqueur ? C'est la droite la plus radicale, la droite la plus nationaliste. Ça veut dire que lorsqu'il y a une campagne qui démarre, la gauche israélienne, sioniste ou pas, peu m'importe, la gauche israélienne démarre avec deux angles de retard. D'abord, un, elle part avec 700 000 voix de retard à peu près, puisque les colons ne votent pas pour eux. Et deuxièmement, elle part à peu près avec des centaines de milliers de voix de retard du fait que les populations juives religieuses ne voteront pas pour la gauche d'emblée parce qu'elles estiment que c'est les partis qui vont aller vers une diminution de la prégnance des idées religieuses en Israël. Donc d'emblée, cette gauche part en retard. Du coup, la gauche israélienne aujourd'hui est face à un moment déterminant de son histoire. C'est-à-dire qu'elle doit trouver des voix. Et sur cet angle-là, on a deux grandes tendances. Les travaillistes, eux, continuent de croire qu'on peut créer un sionisme de gauche, de justice sociale, tout ça. Je pense qu'ils se fourvoient complètement, parce qu'en fait, tant que vous restez enfermé dans la question du sionisme, c'est-à-dire du fait que les juifs doivent avoir un État et être majoritaire, vous donnez toujours la part belle à la droite, parce que la droite sera toujours plus forte que vous dans la défense démagogique, de l'identité juive, d'un pays que pour les juifs, d'un pays de privilèges, etc., pour la population juive, etc., etc. Donc la gauche, de toute façon, elle tourne en rond et elle perd de son influence, et elle continuera, à mon avis, de perdre en influence si elle continue à faire ça, parce qu'en fait, on le voit depuis maintenant 10 ans, la gauche en Israël, la gauche sioniste travailliste, ne sert qu'à une chose, ce n'est qu'à jouer un rôle, si vous voulez, de variable d'ajustement gouvernemental, de faire l'acompte quand il manque des voix pour être au gouvernement et d'avoir quelques rôles dans les ministères. Mais concrètement, en termes d'influence politique, c'est quasiment c'est pas grand-chose, hein, clairement. L'autre tendance qui va être issue du Meretz, donc d'une espèce de gauche sioniste radicale, si vous voulez, ou aussi de ce qu'on appelle la liste unie, c'est-à-dire en gros l'alliance entre le Parti communiste israélien et les partis palestiniens d'Israël, là, la volonté, c'est davantage de dire « Ok, on a en Israël aujourd'hui 20% de la population qui est palestinienne. Et dans cette population-là, il y a une vraie aspiration au changement, ou en tout cas à avoir des droits égaux en Israël, à avoir accès à une égalité dans ce pays-là. Et on peut peut-être trouver, parmi cette population-là, une réserve de voix électorale importante au point de revenir à une alliance. C'est la fameuse stratégie qui avait été pensée par Ayman Odeh, qui est actuellement le leader de la liste unie, donc qui est un communiste arabe, qui lui estime que les 30% restants de la société juive israélienne qui sont toujours, disons, progressistes ou attachés à une espèce de sentiment du camp de la paix, etc., et de volonté de pacification, si ces 30%-là acceptent enfin de s'ouvrir et de s'allier sincèrement avec une partie de la société palestinienne d'Israël, on peut parvenir à constituer une force politique majeure en Israël. C'est un projet, c'est une perspective, je ne dis pas que ça va arriver. Je dis en tout cas que la participation électorale depuis 2 ans parmi la société palestinienne d'Israël n'a jamais été aussi forte. On a eu 65% de participation de cette société-là lors des élections de mars 2020. C'est historique en termes de participation électorale. Et ça montre, même au niveau des études sociologiques, vous avez autour de 75, voire 80% de Palestiniens d'Israël qui estiment qu'ils ont envie maintenant de voir des ministres palestiniens dans les gouvernements israéliens. Évidemment, pas n'importe quel gouvernement, mais quand même, ils veulent en voir. Ça montre quand même une dynamique qui est que cette société-là, elle souhaite prendre sa part dans le pays, elle souhaite le voir changer, elle souhaite avoir accès à une égalité. Et d'ailleurs, l'explosion dans les villes israéliennes arabes ou juives arabes ou judéo-arabes qu'on a vu ces dernières semaines, notamment au mois d'avril, le montre bien. vous pouvez donner à ces gens davantage de budget dans les communes. Vous pouvez leur dire que vous aurez accès à davantage de zones d'emploi, certes, mais tant qu'il n'y aura pas d'égalité concrète, tant qu'il n'y aura pas d'égalité des droits concrets, eh bien, vous ne parviendrez pas à créer une société apaisée et d'égalité. Mais face à ça, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que Israël étant un pays profondément colonial, sa société, sa sociologie est basée sur une pyramide. C'est-à-dire qu'en gros, les groupes ethniques en Israël sont en compétition pour accéder au pouvoir politique, parce qu'il n'y a pas d'égalité entre les gens. C'est aussi pour ça que vous avez par exemple des juifs éthiopiens ou des juifs originaires des pays arabes qui ont bien conscience que si on les met égalité avec tout le monde, notamment avec les Palestiniens d'Israël, eh bien, ils vont peut-être être catégorisés davantage comme arabes que comme juifs. Donc, quelle stratégie est-ce qu'ils ont face à ça ? C'est de dire aux juifs européens, vous avez créé un pays pour les juifs et vous voulez séparer l'église de l'État. Ça n'a aucun sens. Nous, on va revendiquer une judéité encore plus prosélyte que vous. Et dans ce cadre-là, on va être davantage à droite que vous. On va montrer qu'est-ce que c'est qu'être juif. Parce qu'ils savent bien que dans un pays colonial, vu qu'il n'y a pas d'égalité des droits entre tous les citoyens, l'objectif, c'est de parvenir à être au-dessus de l'autre pour ne pas se retrouver au bas de l'échelle. Le deuxième blocage central, c'est que si vous allez vers une égalité des droits et vers une volonté de dépasser ce clivage d'un pays que pour les juifs, etc., eh bien, vous devez forcément dépasser la question du sionisme, c'est fondamental. Et là, vous vous retrouvez face à un enjeu qui est qu'en Israël, si vous voulez rassembler une part importante des voix juives, eh bien, vous devez montrer une forme d'attachement au sionisme, parce qu'en Israël, eh bien, oui, encore aujourd'hui, le sionisme est une valeur qui est défendue et partagée par une très grande majorité des juifs israéliens. Et à l'inverse, si vous voulez rassembler davantage de voix chez les Palestiniens d'Israël, eh bien, vous devez montrer une forme de dépassement, de critique du sionisme. Donc là, on est face à un dilemme compliqué et qui ne peut être dépassé que si on propose une offre politique, je pense, qui peut être égalitaire, de justice pour tous. Pour l'instant, évidemment, si des débats existent, si des structures politiques existent et le proposent, hein, dans le livre, je laisse au lecteur, au futur lecteur, l'opportunité de le découvrir à la fin du livre quand je présente différentes associations et ONG et mouvements politiques pardon, qui proposent ces dessins-là, eh bien, vous verrez que ça existe en Israël. Malheureusement, c'est encore minoritaire, mais à mon avis, c'est la seule perspective possible. Parce que si on ne va pas vers ça, on risque à terme d'aller vers encore un effritement encore plus important de la gauche israélienne dans toutes ces tendances possibles et au contraire une droitisation de plus en plus forte en Israël. D'ailleurs, je terminerai sur ça, on se rend compte aujourd'hui que dans les anciens fiefs de la gauche, par exemple, prenez une ville comme Tel Aviv, qui a toujours été vue comme une ville issue de la gauche, sioniste, etc., on se rend compte qu'aujourd'hui, dans cette ville-là même, les gens votent majoritairement plutôt au centre. Pourquoi ? Parce que le centre israélien, notamment quelqu'un comme Yair Lapid, hein, qui est issu de ce centre-là, c'est le mouvement politique qui parvient à articuler deux choses. Le libéralisme économique et identitaire, hein, qui rassemble beaucoup d'Israéliens aujourd'hui qui ont une volonté d'être sur ce point-là, au détriment d'idées socialisantes, mais également un attachement au sionisme. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui en Israël, quand vous êtes un juif israélien progressiste sur les questions identitaires, attaché au libéralisme économique et attaché au sionisme, eh bien vous ne votez pas pour la gauche, vous votez davantage pour le centre. Parce que la gauche continue à apparaître comme arriérée, désuée, parce qu'elle n'offre pas de nouvelles idées et de nouvelles perspectives politiques. Voilà. J'ai essayé d'être le plus clair possible, j'espère avoir été clair et compréhensif.
Merci Thomas, et puis tu nous donnes envie de lire ton ouvrage.
Eh ben, j'espère, merci.
Alors avant de terminer, une petite question, mais alors vraiment c'est personnel, j'ai un peu honte, mais depuis que je t'entends, et comme j'ai dit au début que tu étais prof d'histoire, je trépigne d'impatience de te demander comment, dans ton métier de prof d'histoire, avec des jeunes collégiens qui sont imbibés par la société d'aujourd'hui et par les idées quand même manichéennes sur la question Israël et Palestine, et à partir des éléments complexes que tu viens de nous présenter et que tu travailles depuis des années, comment tu t'en sors de tout ça, de la simplification et de la complexité ?
Alors, le fait d'être en contact avec des jeunes lycéens et ou collégiens me montre une chose importante, c'est que on se trompe complètement si on croit que cette jeunesse-là n'a pas un minimum de conscience des enjeux contemporains. ils ont simplement pas la même approche que nous. C'est-à-dire que chez ces jeunes-là, par exemple, aujourd'hui, je suis vraiment stupéfait de voir à quel point est-ce que les questions, par exemple, de droits d'LGBT ou même des questions d'écologie sont véritablement prégnants. Mon engagement à moi, je ne l'ai jamais caché. J'ai des débats avec certains élèves, certes, mais ils ont une conscience quand même des enjeux du futur. Alors attention, ce n'est pas partagé par tous, mais on se rend bien compte qu'il y a quand même une espèce de volonté très claire d'en débattre, d'en discuter et d'être acteur de ce futur-là. Bon. Maintenant, sur la question plus précise de l'histoire, là, j'aimerais aussi adresser un avertissement quand même. Trop souvent encore, j'entends dire que les programmes d'histoire en France ne prennent pas en compte la pluralité de l'histoire, etc. Attention, évidemment, ça ne prend pas assez en compte. Mais c'est faux de dire, par exemple, qu'en France, on n'étudie pas l'esclavage, on n'étudie pas la colonisation, on n'étudie pas la torture en Algérie. Évidemment que si qu'on l'étudie. Le problème, c'est comment on l'étudie, et le problème, c'est le temps que ça occupe. Et en fait, quand vous vous rendez compte de ça, vous vous rendez compte que ces jeunes-là, aujourd'hui, non, ils ont accès à des chapitres sur l'esclavage, sur la torture en Algérie, sur la colonisation, etc. Ils y ont accès. Et ils ont soif de ça parce que ce qu'ils ne veulent pas, en tout cas eux, je pense, c'est une histoire qui se révèle un petit peu comme une histoire, on va dire, langue de bois. Mais ce qu'ils veulent, en tout cas, ce sont des débats. Vous savez, par exemple, il y a très souvent en France des discussions sur on ne peut plus enseigner comme on veut, etc. Je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes dans certains établissements scolaires. Je dis qu'en tout cas, j'ai enseigné moi aussi en ZEP, j'ai enseigné en Seine-Saint-Denis, j'ai enseigné dans des quartiers très difficiles. Tu ne peux pas enseigner à tes élèves des questions sensibles s'il n'y a pas un minimum de relationnel, de communication et surtout de confiance avec eux. C'est-à-dire qu'en gros, si les élèves ont l'impression que tu ne veux que leur donner des affirmations, ça va bloquer. En revanche, si tu es prêt à l'ouverture, au débat, à la discussion, à entendre ce qu'ils ont à te dire, à discuter avec eux, ça va passer. Et c'est ça, aujourd'hui, je pense que cette jeunesse n'accepte plus, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant, à mon avis, c'est qu'ils veulent être acteurs aussi de ce qu'on leur enseigne, de ce qu'on veut leur apprendre. Ils ont soif d'avoir accès à ces débats-là, à ces questions-là. Et ils sont extrêmement frustrés quand ils ont l'impression que les sujets qui les préoccupent, eux, ne sont pas ou peu enseignés. Par exemple, la laïcité. On va prendre l'exemple là. Si vous faites un cours sur la laïcité en parlant de 1905, de Jaurès, des débats entre Clémenceau et Ferré, tout ça, je vais être honnête avec vous, ça va les dépasser. Parce qu'ils auront l'impression de parler un truc d'histoire, alors qu'en fait, eux, la laïcité, pour eux, c'est un truc du quotidien. Et c'est ça qui est intéressant. Prenez à l'inverse, approche sur la laïcité en prenant des débats de société actuels. Mais là, vous allez avoir des classes mais qui sont passionnées. J'ai fait l'exemple avec des trucs concrets. Ok, on va essayer de comprendre la laïcité en prenant l'exemple des débats sur les repas à la cantine, sur le port du signe religieux à l'école. Mais là, les élèves sont passionnés parce qu'ils ont l'impression d'apprendre un truc d'histoire et d'actualité qui les intéresse au premier plan. Ou par exemple, lorsque on approche sur la question du génocide juif, voilà, sur la Shoah. À chaque fois, moi, j'ai des élèves qui vont me dire « Mais monsieur, et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des Ouïghours? Pourquoi on ne parle pas des Palestiniens? Pourquoi on ne parle pas de je ne sais quelle cause encore autre ?» Si à ce moment-là, vous vous braquez, ça n'a aucun sens. Le rôle du prof d'histoire, ce n'est pas de se braquer, c'est d'essayer d'être dans la discussion avec eux. Et de dire, eh bien justement, étudions cette question du génocide juif et voyons voir par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire, par rapport à comment l'antisémitisme a été construit, comment l'antisémitisme a pu devenir d'une idée raciste en société, un projet d'État et un projet un projet génocidaire, eh bien comment ça s'est construit. Et voyons voir ensuite à quoi il faut faire attention, à quoi on doit être sensible. Ce que je dis souvent moi aux gens, c'est qu'en fait, quand je fais un chapitre sur l'esclavage, la colonisation, le génocide juif, c'est pas des chapitres d'histoire fermée, c'est des chapitres où j'essaie de comprendre dans ce chapitre-là avec mes élèves comment on peut en faire des leçons universelles et des leçons d'histoire sur notre présent actuel. Et quand vous faites ça, en fait, vous vous rendez compte que les gamins ils sont intéressés. Quand vous ne fermez pas au débat et quand vous arrivez à leur dire que attention, regarde, Oui, effectivement, aujourd'hui, il y a une injustice vécue par les Palestiniens, par les Kurdes, par la situation que vivent les Ouïghours, etc. Mais est-ce que tout est comparaison possible? Je ne crois pas. Et bien, en fait, les gamins, ils sont intéressés, ils vont dans le débat. Et c'est ça, je pense, que je peux reprocher parfois à l'institution, c'est d'abord de vouloir nous donner des cadres qui peuvent nous limiter dans le débat. Et je pense, en tout cas, que certains collègues ne sont peut-être pas assez armés face à ça, mais je leur dis, et c'est un message que j'adresse souvent aux collègues, alors ça peut être mal vu, mais je le crois sincèrement, vous ne serez pas armés si vous attendez de l'institution qu'elle vous donne des armes. C'est à vous de vous armer vous-même par rapport à une approche intellectuelle, par rapport à des réflexions, et par rapport à des lectures, par rapport à des débats. Et c'est dans ce cadre-là où moi je sais que j'ai davantage appris en allant dans des formations issues du milieu syndical ou quoi, que par rapport à ce que l'institution a pu m'offrir, clairement. Voilà.
Merci Thomas. Et nous aussi, nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Là, je pense que cette émission était passionnante. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous faisons tout pour que Thomas vienne cet automne à Marseille. Donc nous pourrons continuer. Je pourrais lui poser les questions que je n'ai pas pu poser aujourd'hui. Vous pourrez poser les vôtres. Et puis merci Thomas, merci à Radio Galère et merci à nos fidèles auditeurs. Nous vous souhaitons à tous une belle continuation dans cet été 2021. Au revoir.
Merci à toi en tout cas. Shut up.